des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour à toutes et à tous, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Cette semaine, une émission spéciale puisque nous la consacrons entièrement au grand Ian McEwan. Grand, très grand même, issu de cette Golden Generation britannique où figurent aussi Jonathan Coe, Julian Barnes, Martin Amis, feu Christopher Hitchens, qui continue, Hitchens excepté, hélas, à nous étonner à chaque livre. Alors Ian McEwan, c'est l'auteur d'une quinzaine de livres dont Expiation, ou Amsterdam, sur un ministre éclaboussé par une affaire de meurtre pour lequel Ian McEwan a reçu le Booker Prize en 1998, de L'enfant volé, couronné en France par le prix Femina en 1993, un auteur fêté aussi par le cinéma qui a notamment porté à l'écran le superbe Expiation qui, sous le titre Reviens-moi, a reçu un Golden Globe Award. Il a longtemps été surnommé Ian Macabre à cause de ses textes aux teintes gothiques avant d'élargir son champ d'action littéraire avec ce texte magnifique, Une nuit de noces ratée dans les années 60 sur la plage de Chesil, ou en tâtant du roman d'espionnage avec Operation Sweet Tooth en 2017, nous l'avions reçu. Pour le Shakespearien Dans une coque de noix, un roman dont le héros était un fœtus, et on lui avait demandé à cette occasion quel serait son prochain personnage principal. Il nous avait dit peut-être un robot. Eh bien, c'est fait, c'est un robot dont il est question dans ce dernier roman, Une machine comme moi, qui paraît chez Gallimard, traduit de l'anglais par France Camus Pichon. Une machine, un robot, un androïde plus précisément, c'est-à-dire une machine mais avec l'apparence d'un être humain. Bonjour Ian McEwan.
Bonjour.
Et bonjour Marguerite Capelle, vous êtes l'interprète de Ian McEwan pendant ce temps des écrivains.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous regardez toujours, je les citais Ian McEwan, cette génération dorée de la littérature britannique, Jonathan Coe, Martin Amis, Julian Barnes, hélas, Christopher Hitchens n'est plus de ce monde. Est-ce que vous regardez toujours avec intérêt les livres dont certains sont restés, je suppose, des amis?
They're all still friends.
Ce sont tous encore des amis.
And yes, we keep in close
Mais bien
contact.
Sûr, nous restons en contact.
Unfortunately, Martin has moved to,
Malheureusement,
to Brooklyn.
Martin s'est installé à Brooklyn.
But I see Julian a great deal.
Mais je vois beaucoup Julian.
Yes, we read each other as we always
Et oui, nous
did.
Nous lisons mutuellement comme nous l'avons toujours fait.
Right from the beginning, there was always a convention.
Depuis le début, il y a toujours eu une règle qui disait que quand on n'aimait pas le livre de l'autre, on ne disait rien, tout simplement.
So that convention continues.
Et ça continue à s'appliquer.
I'm always extremely interested.
Mais je suis toujours extrêmement intéressée par ce que font les autres.
We were never a group like.
Nous n'avons jamais formé un groupe au sens d'école de pensée.
We never issued a manifesto.
Nous n'avons jamais fait de manifeste, par exemple, comme des écrivains français. Je ne suis pas tout à fait sûre d'ailleurs qu'il y avait même une esthétique vraiment en commun. Il se trouve juste que nous étions tous à Londres au même moment et que nous commencions nos carrières.
Et vous avez lu dans Le cœur de l'Angleterre, le dernier livre de Jonathan Coe qui parle du Brexit, dans lequel il sera question dans un prochain livre de Cockroach, le cafard que vous avez écrit, qui était publié en Angleterre, pas encore en France. Vous reviendrez peut-être nous en parler. Mais vous avez lu le livre de Jonathan Coe?
I've read Coe's book, enjoyed it enormously.
Oui, j'ai lu son livre, je l'ai adoré. Je pense qu'il est très très doué pour l'humour.
Marvelously reanimated old-fashioned English
sense. Il a une façon très traditionnelle, aussi très anglaise, de revivifier cette comédie de classe qui est une tradition anglaise. Il se peut que la réaction de la plupart des écrivains au Brexit soit l'humour du désespoir.
I think there will be a literature.
Je pense qu'il y aura une littérature
just as there is a growing
consacrée à ça, de la même manière qu'il y a une littérature qui se développe à propos du changement climatique.
Une Brexlit.
A kind of Brexlit.
Oui, une sorte de Brexlit, oui.
The important thing about it is
Ce qui est important,
it's real subject matter
c'est que le véritable sujet, ce sera le populisme européen.
It's not a limited subject.
Donc ce n'est pas un sujet limité.
So Brexit will have, I think, some real relationship.
Je pense que le Brexit aura des rapports avec ce qui se passe aussi en France, en Allemagne, en Hongrie en particulier.
Quand vous dites populisme européen, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est un populisme qui serait européennement nationaliste ou chacun défendant sa nation?
It's something that
C'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu prévoir, prédire il y a 10 ans. L'idée que le modèle socio-démocrate libéral, qui semblait tout à fait assuré face à ces problèmes, puisse en rencontrer. Et je pense que nous sommes encore en roue libre. Nous voyons partout dans le monde, en Turquie, au Brésil et par-dessus tout aux États-Unis. Ce phénomène, donc quelque chose manquait dans notre modèle. Je pense que dans les démocraties libérales occidentales, même si elles se portaient bien, il y avait un mouvement contre la mondialisation. En fait, la mondialisation a été une vraie réussite pour les trois quarts de la population du monde, les autres trois quarts. Mais les démocraties libérales n'ont pas réussi à partager les richesses. C'est ça le problème. Je pense qu'en fin de compte, ça revient à un problème de redistribution. Ces inégalités de richesses ont créé une colère, une colère extrêmement destructrice, parce qu'il n'y a pas non plus de modèle clair pour une autre société plus juste. Donc je pense que les démocraties libérales vont devoir vraiment examiner les choses et réfléchir à la manière dont elles redistribuent les bienfaits de la mondialisation qui n'ont pas été partagés en Occident.
Mais sur cette notion de populisme européen, ça traduirait par quoi en fait? C'est qu'on brandirait le modèle européen ou au contraire on en reste aux nations?
Je pense que cela aura beaucoup en commun avec le populisme brésilien par exemple. C'est quelque chose de très puissant. Ça se distingue en Europe parce qu'on a peut-être davantage à défendre. Donc ça frappe davantage. Dans le modèle socio-démocratique, en particulier dans les pays baltes, nous avons cru atteindre une forme de paradis. Les filets de sécurité étaient solides, la société avait l'air stable. Mais maintenant, quand je suis en Suède, je vois que tout le monde est très inquiet. Le Brexit commence à faire tomber les murs de cet édifice que nous avons bâti, donc il y a un contraste. Alors que par contre, le Brésil, en tant que démocratie libérale, a plus de chemin à parcourir.
Vous aviez eu de très beaux mots il y a quelques années sur la littérature et votre apprentissage de la littérature. Vous aviez dit « j'ai appris à écrire en lisant ». Pour moi, la littérature était comme une conversation très intéressante à laquelle j'ai voulu prendre part. Est-ce que c'est toujours le cas pour vous quand vous écrivez? Continuez à participer à une conversation et avec qui?
C'est une conversation qui se poursuit.
Not only with your readers.
Bien sûr, avec les lecteurs, mais pas seulement. La nature de la réalité sociale et politique et de l'esthétique aussi est au cœur de la conversation. C'est un projet pour moi à l'échelle d'une vie qui était l'idée d'embrasser tous les cadeaux du modernisme du début du XXe siècle, les œuvres de Proust, de Joyce, de cette génération-là. Et en même temps de me les réapproprier. Et de me réapproprier aussi les ambitions magnifiques des romanciers du 19e siècle. De toucher au monde tel qu'il est, de donner un aperçu de ce que peut être Paris, par exemple au 21e siècle, de le faire sentir. Ou ce que c'est de perdre son travail à Londres aujourd'hui. Ou ce que c'est de se retrouver confronté à des bouleversements technologiques incroyables qui pénètrent non seulement la sphère politique mais aussi la sphère personnelle, intime. On se demande même si on est en train de devenir des personnes différentes dans l'attachement qu'on a aux machines qu'on a en main. Et ces machines pourraient quasiment être attachées à notre cerveau. Ce n'est pas seulement une histoire de robots, en fait, qu'il faut discuter. C'est une nouvelle forme d'humain synthétique que nous-mêmes pourrions devenir ou nos petits-enfants. Donc ce débat-là, cette conversation est quelque chose qui m'intéresse énormément. L'impact de la technologie sur nos vies.
Alors c'est le sujet de ce nouveau livre, Ian McEwan, Une machine comme moi. Dans ce livre, vous nous offrez une virée dans la Grande-Bretagne des années 80, mais ce n'est pas la Grande-Bretagne des années 80 qu'on a connue. Thatcher est au pouvoir, mais elle s'apprête à perdre la guerre des Malouines de manière sanglante. Dans cette Grande-Bretagne, qui est donc une Grande-Bretagne alternative, uchronique, le célèbre mathématicien Alan Turing, auquel vous aviez consacré une pièce de théâtre, vit toujours. Il ne s'est pas suicidé en 1954. meurtre après avoir été contraint de subir un traitement hormonal pour son homosexualité, traitement entre guillemets évidemment, mais il a choisi de faire de la prison, alternative qui d'ailleurs lui avait été proposée, et il a survécu. Et grâce à ce génie, l'intelligence artificielle a progressé, la science en fait, a progressé plus vite que dans le reste du monde, et notamment l'intelligence artificielle, ce qui fait qu'au moment où le livre se déroule, une société vient de commercialiser, propose à la vente, des androïdes. Alors Charlie, un jeune trentenaire qui vient d'hériter, décide d'acheter un androïde, un Adam, en fait un androïde mâle, parce qu'il a raté les androïdes femelles, Eve, qui était pourtant à vendre. Donc il a un Adam, il l'accueille chez lui, en pensant créer une famille avec celle qu'il aime, Miranda, qui vit au-dessus de chez lui. Et quand bien même ce robot est doté d'un logiciel de morale, ce beau projet de famille va déraper, puisque le robot va avoir une aventure sexuelle et même sentimentale avec Miranda. Au pays de Mary Shelley, Ian McEwan, ça devait forcément déraper entre un homme et une machine.
Things always go wrong in my novels.
Les choses dérapent toujours dans mes romans. C'est une donnée de départ.
Adam comes onto the market with
Adam arrive sur le marché complètement fonctionnel avec des muqueuses qui marchent et il est capable de faire à peu près tout.
And I found it irresistible.
Et j'ai trouvé irrésistible l'idée de ressortir le ménage à trois. Traditionnel. Mais j'avais aussi envie que Charlie, mon narrateur, ait un peu d'orgueil, même si évidemment il est furieux d'entendre la femme qu'il aime faire l'amour avec le robot à l'étage. Il y a une forme de fierté en lui parce qu'il est en train d'accomplir l'ultramodernité. Vraiment, c'est la condition ultramoderne. Il est probablement le premier homme cocuffé par une machine. Même au moment où il essaie de se dire que ce n'est qu'une machine, qu'il n'est qu'en train de jouer la machine à un jeu très élaboré, il ressent de la jalousie, il ressent de la colère, et il doit accepter qu'il est en train de traiter Adam comme un être humain.
Et
ce qui m'intéresse le plus, c'est dans cette nouvelle relation que nous sommes en train d'engager avec notre propre intelligence et avec les machines, à quoi est-ce que ça, comment est-ce que ça serait d'avoir un rapport intime avec eux? Il nous faudra encore 50 ans pour ça.
C'était une façon de renouveler justement ce topos de la relation homme-machine, qui est quand même un vrai topos, un vrai lieu commun dans la littérature. Dès 1926, Jonathan Swift mettait en scène un écrivain automate, d'ailleurs avec un générateur de phrases, des cylindres, sans parler de l'obsession du robot dans la science-fiction de Philip K. Dick, aux récentes séries par exemple Real Humans ou Black Mirror, où il y a aussi... C'était une façon de renouveler ce topos, justement de ressortir un autre topos, le ménage à trois, parce que vous auriez pu être inquiet par cette... Je vais parler des robots, mais tout a été dit, ou presque, sur les robots.
Je pense que ça remonte même plus loin que ça. Regardez le mythe de Prométhée. C'est une histoire qui remonte à 3000
ans.
Je pense que c'est une ambition qui est profondément tissée dans la nature humaine. Pensez aussi à Jason et les Argonautes.
Exactement.
Il y a un énorme robot qui leur jette des brochets à la figure. Adam et Ève, ceux de la Genèse, il y a une intelligence supérieure qui fabrique une personne à son image, et quand cette personne se sent seule, il ajoute une Ève. Et puis, bien sûr, il y a le texte magnifique de Mary Shelley. Comme vous l'avez dit, ça s'est propagé partout en Occident, et c'est devenu effectivement un cliché. Mais je pense que l'imaginaire humain est maintenant parti tellement loin que même si un robot entrait maintenant et s'assied avec nous, on ne serait pas surpris.
Maybe we are.
We've imagined it so long.
En fait, on l'imagine depuis tellement longtemps que c'est presque ennuyeux. Presque banal. Mais j'avais envie de rajouter à ce long chemin de banalité pour regarder ça de plus près. Parce qu'en fait, en science-fiction, c'est juste un fait. Ils sont là dans le Star Wars, dans Westworld, etc.
Il n'y a pas de sexe dans Star Wars, et c'est vrai que la nouveauté, c'est que vous...
Children,
voilà. Pardon ?
C'est pour les enfants, voilà. Regardez les étoiles.
Mais non, je voudrais lire un tout petit extrait justement de la fameuse scène à laquelle assiste justement Charlie, à la scène d'amour entre guillemets, entre son Adam, son androïde et Miranda. C'était les yeux de l'esprit ou ceux du cœur qui regardaient Adam et Miranda s'allonger entre les formes fermes du futon et chercher la position la plus confortable pour s'étreindre. Je regardais Miranda chuchoter à l'oreille d'Adam, mais je n'entendis pas les paroles. Elle n'avait jamais chuchoté à mon oreille dans ces moments-là. Je regardais Adam l'embrasser plus longuement et avec plus d'ardeur que je ne l'avais jamais embrassé. Les bras qui avaient ouvert la fenêtre à guillotine se refermaient sur Miranda. Quelques minutes plus tard, je faillis détourner les yeux lorsqu'il s'agenouilla avec déférence pour la caresser avec sa langue, cette fameuse langue qui, moite et réchauffée par son souffle, apte à former les vélaires et les labiales, donner leur authenticité à ses propos. Je regardais sans la moindre surprise. Contrairement à moi, il ne fit pas jouir ma bien-aimée aussitôt, mais laissa son dos mince se cambrer sous l'effet du désir, etc., etc. Là, mon humiliation fut totale. Et vous concluez par « Je concédais à Adam, comme s'il se devait, les mêmes privilèges et les mêmes obligations qu'à mes semblables, je le détestais. » Ça reste toujours, là c'est un robot, mais ça reste toujours, je pensais au romancier de Sur la plage de Chézil, cette magnifique histoire Nuit de noces ratée, ça reste toujours aussi intéressant à écrire le sexe.
Well, I have to say, first of all,
bien, je dois dire d'abord, pour rendre hommage à votre langue, que le sexe sonne toujours mieux en français.
I think it's cowardice to avoid it, really.
Je pense que c'est la lâcheté d'éviter
there probably is no
le sujet.
Some people speak for cocaine and others for skiing.
Il y a des gens qui défendent la cocaïne ou le ski, mais je pense que dans une vie d'adulte, c'est le sexe, et en particulier le sexe lié à l'amour, qui est ce qu'il y a de plus formidable que vous puissiez vivre.
Non, mais je parlais en tant qu'écrivain, hein, je vous interrogeais pas sur votre vie privée, Ian McEwan.
As a writer, it's a challenge.
En tant qu'écrivain, c'est un défi. Le seul espace qui nous reste après que John Updike ait écrit, c'est de parler des émotions. Pour citer John Updike.
Pourquoi ? Parce qu'il a asséché le sujet tellement il était bon.
Il
était tellement brillant dans les descriptions des aspects, des dimensions physiques du sexe. Donc ce sentiment de rejet, de fierté blessée que ressent Charlie. C'est ça qui m'intéresse. Mais je pense qu'on ne peut pas l'éviter. Pour moi, ce n'est pas une obsession, c'est simplement l'expérience centrale et la plus formidable que peuvent vivre les humains.
Clive James, who recently died,
mon ami Clive James, qui est décédé récemment, il disait à propos de la mort, personne ne s'en sortira vivant.
And he's right.
Et il a raison.
Soon we will be nothing.
Nous ne serons bientôt plus rien.
So we better celebrate this highest moment of adult
Donc on ferait mieux de célébrer, de fêter ce grand moment de l'expérience adulte et avec toutes ses complexités. Et ça tourne mal de tellement de manières différentes. L'amour, la fin de l'amour, c'est vraiment la chair même du roman.
Toujours.
Toujours. We'll never escape it.
On n'y échappe jamais.
Est-ce que vous avez tranché facilement la question du robot homme ou femme, mâle ou femelle ? Qu'est-ce que le robot masculin, d'ailleurs, vous autorisez, que le robot féminin ne vous autorisez pas dans la fiction ?
I took a sort of structural decision.
C'est une décision structurelle que j'ai prise. Si Charlie achète une jeune femme magnifique, une androïde féminine, on a déjà un pied dans la piscine de la pornographie. Donc j'avais envie qu'il ait plutôt un concurrent qu'un objet d'affection. Je me sentais plus libre.
On vous sait, comme écrivain, extrêmement impliqué dans les problématiques contemporaines. Vous avez écrit des articles sur le changement climatique, sur l'islamisme, aussi qui vous ont valu d'ailleurs quelques coups de bâton. Vous êtes très investi dans la science, hein, vous adorez ça. Il y avait même, c'est peut-être toujours le cas, une rubrique science sur votre site officiel. Comment vous avez travaillé pour échafauder ce roman ? Parce que l'intelligence artificielle, c'est vrai que tout le monde en parle, mais vous, la différence avec une conversation de tous les jours, c'est que vous devez échafauder un roman. Comment vous avez procédé ?
Je ne pense même pas à la science comme un sujet. Je ne suis même pas sûr de m'intéresser à la science, ce qui m'intéresse, c'est le monde. Et l'une des meilleures manières de comprendre le monde, c'est passe par la science. Autrefois, on comptait sur les prêtres pour nous expliquer comment fonctionnait le monde et le système solaire. Et le retrait de l'autorité de la religion, de son influence, c'est aussi qu'ils se sont complètement trompés, justement, et que ce qu'ils nous disaient sur la manière dont on vivait et le monde réel était faux. Et puis, on n'a jamais, dans l'histoire de la pensée, inventer de processus de réflexion qui permettent de s'autocorriger, qui admettent ses propres erreurs immédiatement. Il y a une phrase connue qui dit que la science précède toujours les enterrements et que fonctionne en fait au rythme des enterrements, et que quand le professeur célèbre décède, un petit jeune va prendre sa place. Mais la science comprend aussi, évidemment, le scepticisme, c'est ça en fait partie, c'est une des grandes découvertes de la modernité. Partout ailleurs, nous sommes entourés de textes auxquels on ne peut pas toucher, que ce soit le Coran, la Bible, et maintenant la Constitution américaine, qui devient un texte sacré aujourd'hui, ce qui est en train de tuer l'Amérique.
Donc
le scepticisme, la curiosité, organisée en système de pensée, est une très belle invention.
Et est-ce que le bon vieux roman, finalement, reste un outil, justement, adéquat pour raconter ces évolutions du monde? Est-ce que l'outil est encore valable? Est-ce que vous croyez à la longévité de l'outil roman pour nous expliquer le monde? Parce que c'est vrai que vous disiez, on a eu les prêtres pour nous expliquer le monde, on a les scientifiques, mais on a aussi les romanciers.
Le roman aurait dû mourir il y a bien longtemps.
Il y a tellement
d'autres attractions formidables pour s'y opposer, pour aller contre. Mais donc la question, c'est pourquoi est-ce que le roman est toujours là? Je ne crois pas que nous ayons découvert une forme artistique qui soit aussi capable d'explorer la vie intime, la conscience, dans un contexte social et politique. Et par rapport à ce contexte, même si les méthodes pour se procurer les romans sont différentes, que nous les lisions sur un iPad ou papier, je pense que ça n'a pas d'importance, mais nous avons inventé au cours de ces 400 dernières années une machine qui permet d'explorer non seulement la nature humaine, mais aussi le changement social et sociétal. Et c'est cette idée de la vie intime dans le contexte de la vie politique qui ne peut pas être explorée de la même manière avec des films, quand bien même ils sont extrêmement séduisants. Même le théâtre ne peut que vous livrer ce que disent les gens, ce que font les gens. Depuis Proust, depuis Joyce en particulier, nous avons maintenant une méthode qui permet de vraiment définir la conscience, d'en tracer les contours et les changements. Ça peut sembler une entreprise qui ne concerne que quelques minorités, mais en réalité, une niche, mais en réalité, je ne pense pas que son importance diminuera.
Et vous avez utilisé le mot « machine » pour qualifier le roman?
Un
instrument, un outil, une méthode. Mais c'est extraordinaire. Même le roman de poche, il n'y a même pas besoin de piles. Ça tient dans votre poche et ça contient peut-être 15 heures d'amplification totale pour le lecteur. Et c'est juste vous face à quelques signes sur la page.
On va continuer à explorer ce roman Une machine comme moi avec vous, Ian McEwan, et notamment on parlait de l'histoire, hein, avec un grand H, puisqu'on fait une plongée dans une histoire alternative, les années 80, mais pas comme elles se sont réellement produites. Mais on écoute votre premier choix musical. Vous avez choisi Annabelle de Gillian Welch.
France Culture, le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
At least 20 acres and one gin and mule from the Alabama Trust. Handful of dust, but we can't not have we can only wonder why. I had a daughter, called her Annabelle. She's the apple of my eye. Tried to give her something like I'd never had. I didn't want to ever hear her cry. We cannot have all things to please us, no matter how we try.
Annabelle de Gillian Welch, c'est le premier choix musical de Ian McEwan qui publie chez Gallimard Une machine comme moi, son nouveau roman. Pourquoi ce choix musical, Ian McEwan?
There's a generation of American folk singers.
Il y a une génération de chanteurs folk américains qui m'attirent énormément. Gillian Welch, elle a vraiment ce désir, cette ardeur dans sa voix, et j'adore sa guitare. J'ai des préjugés contre certains types de musique folk un petit peu tintinabulant. Mais là, j'adore la façon dont elle construit ses accords. Et sa guitare, dont j'ai oublié le nom, a vraiment une qualité très particulière, un toucher très particulier.
Et ça va bien avec une machine comme moi.
Yes. By the way, if a robot could write a song like that.
En fait, si un robot pouvait écrire une chanson comme ça, je pense qu'il faudrait qu'on lui accorde une conscience.
Alors, dans Une machine comme moi, on découvre Charlie, qui est un trader, qui vient de s'acheter un androïde, un robot, nommé Adam. Avec sa voisine Miranda, il programme le robot, sa voisine qui l'aime, dont il est amoureux. Il apprend à vivre avec, mais il va partager bien plus qu'il n'imaginait avec ce robot, puisqu'un soir, Miranda le trompe avec Adam. Peut-il vraiment se sentir trompé, être jaloux d'un robot ? À quoi ça rimerait en effet ? Elle lui dit d'ailleurs, Miranda, à quoi ça rimerait d'être jaloux d'un simple sextoy ? Sauf que c'est plus compliqué que ça. Et d'un schéma de vaudeville à la réflexion éthique, des questionnements terre à terre, vous le disiez tout à l'heure, du premier homme fait cocu par un robot, aux échappées métaphysiques sur qu'est-ce que c'est qu'être un homme, il n'y a qu'un pas ou plusieurs pas que vous nous faites faire, Ian McEwan, avec grâce, énergie et humour, en nous promenant dans des années 80 qui n'ont pas eu lieu et dont vous réécrivez l'histoire. Parce que toute cette histoire se déroule dans une autre Grande-Bretagne que celle qui s'est dessinée dans les années 80, même si vous gardez Margaret Thatcher, mais qui va être renversée par Tony Benn, un leader travailliste qui a vraiment été entouré de trotskistes, comme aujourd'hui un certain Jeremy Corbyn. Et ce Tony Benn, dans votre roman, fait sortir le Royaume-Uni de l'Europe déjà. Je voudrais vous demander pourquoi on comprend pourquoi choisir une Angleterre alternative, mais pourquoi celle des années 80 ? Quel est le sens de ce choix ? Est-ce que c'est l'actualité politique de cette période qui vous intéressait ? Est-ce que c'est une référence à Orwell, qui était aussi une dystopie politique ?
It began with just really a structural choice again.
En fait, encore une fois, ça a commencé par un choix structurel.
I wanted Alan Turing alive.
Je voulais qu'Alan Turing soit vivant.
I didn't want him too old.
Je ne voulais pas qu'il soit trop vieux,
or too young. So
ni
he's
trop jeune.
70,
donc là, il a 70 ans.
My age at the time I was writing.
Exactement mon âge au moment où j'écrivais.
Donc je précise, pour celles et ceux qui nous rejoindraient maintenant, Alan Turing, donc le grand mathématicien qui normalement s'est suicidé, mais que vous avez fait survivre et donc qui a permis à l'Angleterre de faire des progrès scientifiques hallucinants jusqu'au point de mener l'intelligence artificielle a un aboutissement commercial, puisqu'on peut, dans votre Angleterre des années 80, acheter des robots.
Turing is something of an intellectual hero for me.
Turing est vraiment un héros intellectuel pour moi. C'est probablement l'un des derniers grands scientifiques de l'époque, et il a probablement fait davantage que quiconque pour raccourcir la Seconde Guerre mondiale. Il s'intéressait à la physique, à la biologie, aux mathématiques. Il a posé les bases des architectures d'ordinateurs telles que nous les utilisons aujourd'hui. Dans les années 30, il a écrit des essais mathématiques sur la question de savoir si une machine pouvait réfléchir. Donc il était la conscience parfaite pour ce roman. Et j'ai toujours eu envie d'écrire un roman à la première personne, où à la fin du roman, un autre personnage arrive et réprimande en fait le premier personnage, le premier narrateur, et sape complètement son autorité. C'est pour ça que j'ai atterri en 1982. Turing a donc 70 ans, et puis dès que j'ai commencé à regarder autour de moi, je me souviens très bien, bien sûr, de la guerre des Malouines. Le problème avec la science-fiction, c'est que quand se positionnant dans le futur, on a l'impression que c'est une prédiction. Si je place ma fiction dans un passé qui a été altéré, ça devient vraiment purement de la fiction. Suspendu.
With no strings.
Dans le vide, sans attache.
I wanted to reflect on the present, where we are.
J'avais aussi envie de réfléchir au présent, où en serions-nous sans la technologie? Ça pourrait être complètement différent. Si la révolution industrielle n'avait pas commencé au XVIIIe siècle dans le nord de l'Angleterre, ça aurait pu commencer n'importe où ailleurs où il y avait du charbon, en fait, et de la curiosité. Mais le présent que nous avons, c'est la chose la plus fragile, la plus improbable qu'on puisse imaginer. Et nous sommes incapables de prédire notre propre avenir. Nous n'avons aucune idée de ce que les machines que nous créons peuvent nous faire, où ça va nous emmener. Donc ce serait très facile de saborder les bateaux qui sont partis dans les Malouines, de les faire couler. Quelles seraient les conséquences? Il y avait la fin du régime fasciste en Argentine. Si Mme Thatcher n'avait pas gagné, en réalité, l'Argentine aurait pu rester fasciste une génération de plus. Christopher Hitchens, qui était le seul de tous mes amis qui voulait aller en guerre, il a toujours aimé la guerre. Il considérait que c'était une guerre antifasciste. Et les conséquences en Grande-Bretagne auraient été que le mandat de Thatcher aurait été raccourci, etc. Donc des petites choses peuvent changer nos réalités.
Et ça, c'est un plaisir de romancier, Ian McEwan, ou une leçon que vous voulez donner aussi au lecteur sur ce présent fragile?
Je vois les romans comme une sorte d'enquête, d'exploration. Ce que je dis à mes lecteurs, la seule chose que je leur dis, c'est venez avec moi, on va réfléchir sur le présent. Je ne leur offre aucune réponse, aucune solution, ça ce n'est pas mon rôle. Mais la nature humaine, où nous en sommes dans nos chemins, nos trajectoires. C'est ça les questions qui m'intéressent.
Alors précisément, Ian McEwan, quand on prend contact avec votre roman et avec cette Angleterre qu'il décrit, eh bien, on a l'impression que les années 80 alternatives que vous décrivez, elles débordent dans notre propre présent aujourd'hui en 2019-2020. Je vous cite, ce n'était pas seulement les ouvriers qui perdaient leur emploi au profit des machines, les comptables, le personnel médical, les cadres du marketing, de la logistique, des ressources humaines, de la recherche et du développement. Et à présent, les poètes, auteurs de haïku, tous dans le même bateau. Assez vite, le temps viendrait où la plupart d'entre nous n'aurions plus à nous interroger sur le but de l'existence. Quand on parle avec des gens aujourd'hui, ce ressenti-là, il existe. Et on peut imaginer, Ian McEwan, que vous parlez là de notre époque. Vous avez d'ailleurs écrit Une machine comme moi, Machines Like Me en anglais, pendant le processus du Brexit, où justement, il était question de vérité et puis de réalité alternative, déjà. Est-ce que cette atmosphère a influencé l'écriture du roman?
Absolutely. I mean, here in France,
oui, absolument.
In Paris,
ici en France, à Paris, vous êtes confronté à des questions existentielles. Jusque quand est-ce que je peux travailler? Au-delà de ça, il y a une autre question. Quand cesserons-nous de nous définir par le travail? Quand l'essentiel de ce travail, même pour les travailleurs en col blanc comme nous, pourront être assumés par d'autres. Quel est le sens de la vie? Alors, pour nous, on se définira peut-être par le loisir, par une quête de sens. La quête de sens pourrait être la manière dont nous nous définissons.
And I speak hopefully here.
Et là, je parle avec de l'espoir.
That we would become an entirely different sort of person if we were
no longer defining ourselves by work. Si nous ne nous définissions plus par le travail.
And already now, mainstream economists.
Et déjà aujourd'hui, les économistes les plus classiques parlent de la nécessité d'un salaire universel.
It's unlikely that we will find enough work for
Il est peu probable que nous trouvions assez de travail pour tout le monde.
And the only way to avoid massive
La seule
social unrest
manière d'éviter
will be to start taxing the robots who've stolen
les troubles sociaux,
jobs.
C'est de commencer à taxer les robots qui nous volent notre travail.
So a company that uses robots should have to pay tax on
les entreprises
robots.
Qui utilisent des robots devraient payer des taxes.
And with that money, well,
Avec cet argent,
we could spend it cage fighting
nous pourrions
or hunting swallows
peut-être le consacrer à des combats de cage ou à écrire de la musique ou à partir à la chasse.
There are anti-dystopian versions of the future
Il y a des versions antidystopiques de l'avenir qui m'intéressent.
If we can grow really delicious food in large factories,
si nous étions capables de faire pousser de la nourriture excellente dans les grandes usines, nous pourrions libérer des vastes terres.
So the rediscovery of nature.
Et les rendre à la nature.
And the undoing of
C'est quelque chose qui est discuté aujourd'hui. La redécouverte de la nature,
years.
Défaire toutes les erreurs que nous avons faites au cours des 200 dernières années, ce serait une aventure fabuleuse.
At the moment, things are not going my way.
Les choses ne vont pas tout à fait dans ce sens-là, dans mon sens, pour le moment.
But only 30 years ago, you could have a
Mais il y a 30 ans à peine, on avait des entreprises qui faisaient des automobiles avec 2000 ouvriers.
100.
Maintenant, il suffit de 100 ouvriers pour produire les mêmes voitures.
Vous avez parlé d'Alan Turing tout à l'heure en expliquant combien donc il est très très au cœur de votre roman Une machine comme moi, en disant qu'il avait influencé, changé véritablement, transformé la société dans laquelle il vivait. Est-ce que vous pensez que les romanciers ont encore la possibilité d'influencer la société ? On avait en France des grands écrivains comme Victor Hugo qui étaient persuadés de ça, d'être un phare qui allait guider, qui allait permettre le progrès. Est-ce que vous pensez que c'est encore possible aujourd'hui ? Est-ce que cette vision là, peut-être une vision morale aussi de la littérature. Est-ce que vous l'avez ? Parce qu'une machine comme moi, effectivement, ça nous réveille sur ces machines qui sont au milieu de notre société.
C'est gentil de votre part de le penser comme ça. Si c'est un appel à se réveiller, c'est un appel en tout cas à comme se lancer dans une discussion, dans une réflexion. Un passage que j'aime beaucoup dans un roman de Saul Bellow, qui s'appelle The Dean December. C'est un héros qui est dans une ville de l'ancien empire soviétique. Et il n'arrive pas à dormir à cause des aboiements des chiens. Et dans son insomnie, il a l'impression que les chiens disent « Ouvrez l'univers un petit peu plus grand ». Mon point de vue est limité et plus humble. Ce que je pense, c'est ce qu'un roman peut faire, c'est juste ouvrir l'univers un tout petit peu plus large.
Est-ce que c'est pour ça que vous avez justement publié ce fameux livre que je n'ai pas encore lu, hein, j'en parlais tout à l'heure, The Cockroach, le cafard. Donc c'est une longue nouvelle hein, en forme de satire politique en hommage ou en référence à Kafka. Alors c'est terrible d'ailleurs parce que quand on dit en référence à Kafka, Kafka il avait en ligne de mire les totalitarismes à venir. Choisir Kafka c'est quand même porter le fer très très violemment dans l'époque. Je rappelle juste que ce Cockroach c'est l'histoire d'un homme insignifiant qui peu à peu se métamorphose en premier ministre acharné à imposer le Brexit.
My story is the story of a set of cockroaches who
eh bien,
live
mon histoire
in,
est celle d'un groupe de cafards qui vivent dans le Parlement et qui envahissent le gouvernement et s'emparent de leur corps parce qu'ils pensent que le Brexit va échouer et qu'ils veulent que ça aille au bout. Et il n'y a qu'un cafard qui peut réussir à mener à son terme ce processus parce qu'ils sont très bien organisés, très concentrés sur leur objectif. Donc mon cafard se réveille Premier ministre, effectivement, et avec son conseil des ministres, il fait avancer le projet. Et il y a derrière quelque chose de très bien qui est que les cafards savent que quand les humains s'appauvrissent, les cafards se développent. Partout où il y a de la pauvreté, de la misère, de la saleté, les cafards s'en sortent toujours très bien. Donc il fait passer le projet, tout le monde retourne au Parlement. C'est une histoire très heureuse, finalement.
Mais c'est encore, on en parlait tout à l'heure avec Hugo ou peut-être Dickens, c'est encore le rôle de l'écrivain, par ou le roman, ou par une satire comme ça, de se frotter au monde tel qu'il ne va pas, de continuer finalement à utiliser les mêmes armes que vos prédécesseurs, quoi. L'ironie, la satire, la fable.
Nous,
les textes fondateurs, comme celui que vous avez mentionné plus tôt, c'est Jonathan Swift. Et sa proposition, assez similaire à celle de Kafka. Et en fait, c'est plus que Kafka, c'est ce qu'il y a derrière l'idée du cafard, de mon cafard. Il y a eu toute une époque où certains voulaient privilégier l'esthétique plutôt que certains sujets qu'ils réservaient aux journalistes. Je pense que les années qui ont suivi le modernisme ont été une impasse. Beaucoup de romanciers étaient tellement pris dans une fiction existentialiste, sans du tout le sentiment qu'il fallait affronter les changements majeurs de l'époque et se coltiner à l'époque, tout simplement, les changements technologiques. On ne peut pas écrire comme Beethoven ou Mozart si on était des compositeurs. Mais une certaine idée de la beauté, de toujours chercher la beauté, doit demeurer. Et je pense que c'est la même chose en fiction, dans les travaux de George Eliot, de Tolstoy, de Flaubert. Dans ces œuvres, il y a des leçons de continuité. Même avant le projet moderniste, il y a eu des découvertes fabuleuses sur la manière de présenter des personnages en fiction. Virginia Woolf dit « Le personnage est mort » et moi je suis complètement en désaccord avec ça. Recréer un humain de façon plausible entre les pages d'un livre, avec les conditions que nous avons aujourd'hui, c'est vraiment le projet phare.
On continue d'explorer avec vous, Ian McEwan, ce nouveau roman « Une machine comme moi » qui vient de paraître chez Gallimard. On écoute votre deuxième choix musical, vous parliez de Mozart à l'instant. Eh bien, on va écouter Mozart. Sonate pour deux pianos, le premier mouvement, interprété par Martha Argerich et Daniel Barenboim.
France Culture, le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Sonate pour deux pianos de Mozart, le premier mouvement interprété par Martha Argerich et Daniel Barenboim. C'est le deuxième choix musical de Ian McEwan. On parlait justement de Mozart. Pourquoi avez-vous choisi ce morceau précis ?
C'est un morceau exubérant et magnifique, on l'entend pas souvent. J'ai récemment perdu deux amis qui étaient tous les deux des pianistes amateurs extrêmement doués. Et qui avait joué ce morceau. Moi-même, je ne suis pas pianiste, mais j'ai le sentiment que dans une autre vie, j'aurais aimé être l'un des deux pianistes qui joue ce morceau fabuleux. C'est un morceau plein de joie. C'est une œuvre tardive de Mozart qui a une telle liberté, un tel plaisir. La manière dont les pianos coopèrent, se lancent et se répondent autour du thème.
On revient à cette machine comme moi, donc votre nouveau roman, Ian McEwan, c'est l'histoire de Charlie qui vient de... Alors on est dans les années 80 en Angleterre, mais une Angleterre des années 80 différente de celle qui a vraiment été, puisque vous imaginez que Margaret Thatcher a perdu la guerre des Malouines, vous imaginez que Alan Turing est toujours vivant et que grâce à ses connaissances, à ses intuitions, à son intelligence, eh bien l'Angleterre a fait un bond scientifique hallucinant et on en est à un moment où on peut même s'acheter un androïde pour chez soi. C'est ce qui arrive à Charlie qui achète Adam, donc un androïde mâle, pour finalement constituer une sorte de ménage à trois avec Miranda, la jeune fille qu'il aime. Tous les deux, ils programment le robot, ils apprennent à vivre avec, mais évidemment, on est chez Ian McEwan, il faut toujours un petit peu de perversité, sinon ça serait pas drôle. Et Miranda trompe Charlie avec Adam. Alors, est-ce qu'on peut se sentir trompé, qui plus est par un robot, être jaloux d'un robot, à quoi ça rime tout ça? Eh bien, c'est ce qu'explore votre nouveau roman, qui commence certes comme un vaudeville, mais qui très vite embrasse une réflexion éthique aussi, des questionnements sur la société que nous traversons aujourd'hui même, sur nos rapports avec la technologie. C'est une réflexion aussi sur l'intelligence artificielle, sur la formation de la conscience. C'est aussi un conte philosophique où le robot, finalement, est le détonateur à question. Et puis, il y a, c'est absolument crucial dans le livre, la question de la morale. Puisque vous suggérez que les robots feraient, eux, forcément, puisqu'ils sont programmés, des choix moraux et rationnels. Par exemple, un moment, Adam dit... que s'il faut supprimer la souffrance humaine, le meilleur moyen, c'est de supprimer l'espèce humaine pour régler la chose. Et vous nous expliquez que ces robots ne peuvent pas mentir. Est-ce que cette ambiguïté morale que les hommes, que les êtres humains ont gardée, ça reste le meilleur des cadeaux quand on est romancier?
Well, all of literature tells us...
Eh bien, toute la littérature nous dit que nous sommes des êtres imparfaits. Et en même temps, nous savons parfaitement bien comment être bon. Nous avons la religion, la philosophie, et même notre bon sens. Il est possible d'imaginer si nous développions un Adam, qu'on rassemble tous les philosophes, moralistes, les prêtres, les athées, etc., pour programmer une créature qui soit moralement supérieure à nous. Nous savons comment être bon, mais il est impossible pour nous de l'être tout le temps. On pourrait donner tous nos meilleurs préceptes moraux à Adam, et lui, il serait cohérent. Donc au cœur de ce roman, il y a cette histoire de vengeance. Miranda a commis un acte de vengeance, elle a envoyé un innocent en prison, alors qu'en fait, lui avait commis un crime ailleurs, un autre crime, et Adam estime qu'elle doit payer pour ça, qu'elle doit aller en prison. Tandis que Charlie et Miranda sont écœurés par cette trahison de sang-froid. Et c'est dans cette faille entre la version d'Adam et celle de Charlie et Miranda que j'avais envie d'explorer ce que ça signifie d'avoir une créature, un être moral comme ça parmi nous, peut-être supérieur à nous. Et ce serait encore plus perturbant que s'ils étaient moralement inférieurs, en fait.
On sent le plaisir en vous regardant, les auditrices et les auditeurs ne sont pas là dans le studio, ne vous voient pas forcément Ian McEwan, mais écrire un roman, ça reste toujours un formidable plaisir. On vous voit jubiler là, vous en parlez, vous souriez.
Je pense que dans mon sourire, vous trouvez sans doute la raison pour laquelle je continue à faire ça. Je crois que c'est Kierkegaard qui a dit que pour atteindre le sérieux d'un enfant en train de jouer, c'est ça qui devrait être l'ambition, en fait, de toute existence adulte. Et si ce n'était pas Kierkegaard, c'était peut-être Schopenhauer. Avant que vos auditeurs ne fassent la recherche.
Oui, qu'on ait des courriers.
Je l'ai lu il y a 40 ans.
Voilà. Et écrire des romans permet justement de rester un enfant.
Non, pas tout à fait. Je ne crois pas que les enfants soient capables, qu'ils aient ce pouvoir-là. Tout n'est pas formidable dans l'enfance. Philip Larkin a dit que quand lui était écolier,
He thought humanity was terrible.
Il pensait que l'humanité était affreuse.
And then when he grew up and went to
et en grandissant, en allant à l'université, et en fréquentant les adultes, il a réalisé que c'était les enfants qui étaient horribles.
Vous jouez dans ce livre, Ian McEwan, avec des références littéraires, vous amusez avec l'histoire littéraire. Il n'y a pas que la politique qui a changé entre vos années 80 et les véritables années 80. Il y a aussi les titres des œuvres. Orwell n'a pas intitulé sa dystopie 1984, mais de la Last Man in Europe. Guy Repet Tolstoy a regardé le titre que Tolstoy avait envisagé de lui donner, All's Well That Ends Well. Gatsby s'intitule I Bouncing Lover et Catch 22 de Joseph Heller, Catch 18. Pourquoi ? Quel est le sens de ces changements de titre ?
Heller changed that title because there was
Heller a changé le titre parce qu'il y avait un roman populaire qui s'appelait Butterworth 18, donc le 18 était déjà pris. C'est un exemple miniature en fait de la manière dont le présent peut changer. Catch 22 maintenant c'est quelque chose qui est une expression qui est passée dans le langage courant. En fait ça aurait pu être Catch 69, Catch 69.
Gatsby par exemple. The High Bouncing Lover.
The High Bouncing Lover is a great title.
C'est un super titre.
I think he should have kept it myself.
Je pense qu'il aurait dû le garder en fait.
But that was on his first draft.
C'était sur son premier jet, son première version.
Comme Tolstoy.
Vous êtes la première personne à me poser la question sur ces titres.
Alors, je suis heureux, mais je suis heureux d'entendre la réponse. Pourquoi revenir justement au first draft, c'est toujours le bon pour les...
Ces choix sont faits et puis ensuite on a l'impression vraiment qu'ils sont gravés dans le marbre. Ça aurait pu être autre chose. All's Well That Ends Well, tout est bien qui finit bien, c'est le nom d'une pièce de Shakespeare. Pourquoi est-ce que Tolstoy aurait choisi ce titre ? C'est le titre le plus bizarre qui soit. En particulier parce que ça ne se termine pas bien.
Alors Alan Turing explique, qui est donc présent dans le roman, explique à Charlie qu'il existe une forme particulière d'intelligence dont seraient incapables les robots. Je le cite. Je cite Alan Turing via Ian McEwan. Cette forme d'intelligence est hautement adaptable et inventive, capable d'affronter des situations et des paysages nouveaux avec une parfaite aisance et d'improviser à leur sujet des théories géniales. Je veux parler de l'esprit d'un enfant, avant qu'on le surcharge de faits, de détails pratiques et d'objectifs. Les Adam et les Ève, donc les androïdes, n'ont pas trop la notion de ce qu'est le jeu, ce mode vital d'exploration pour l'enfant. Tout à l'heure, vous parliez justement de l'activité, le but de la vie serait peut-être de rester un enfant. Vous tâchez finalement, il y a une visée apaisante dans ce livre, Ian McEwan. Vous essayez de nous rassurer que c'est à nous peut-être de refaire la promotion de ces formes d'intelligence-là dans un monde qui est peut-être devenu trop mathématique. Il y a une leçon morale à ce roman.
Adam certainly does not understand.
Adam ne comprend pas les enfants. Ça, c'est certain. En fait, l'un des personnages du roman est un petit garçon qui a 4 ans.
And Adam watches him with suspicion.
Et Adam l'observe avec une attitude suspicieuse parce qu'en fait, il est confronté pour la première fois de sa vie à une machine en plein apprentissage qui lui est supérieure. Quelqu'un a écrit un livre récemment sur le LSD.
If you want to know what it's like to take LSD,
si vous voulez savoir à quoi ça ressemble de prendre du LSD, prenez votre petit déjeuner avec un enfant de 4 ans.
Oui, mais Adam, certes, mais Adam, il est capable de faire de la poésie. D'ailleurs, sa première composition est un haïku. Son regard aimant contient tout un univers, aime cet univers. Finalement, même les poètes sont menacés de remplacement par les machines dans votre livre.
They're threatened a little bit.
Ils sont menacés un tout petit peu.
Adam has a curious idea.
Adam a cette idée bizarre.
C'est pas la mienne.
Qu'un jour, les humains auront moyen de se comprendre si bien les uns les autres que le roman sera impossible parce que le roman, en fait, se fonde sur les incompréhensions humaines, sur les tragédies, sur les conflits. Je pense que cette idée est absurde. Mais je voulais qu'Adam
est
une forme d'adolescence intellectuelle, une forme d'exubérance. Donc il dit que la seule forme littéraire qui restera possible sera le haïku, c'est-à-dire une description extrêmement concentrée des choses telles qu'elles sont. Mon point de vue, c'est que si nous étions capables de lire dans l'esprit les uns des autres, les mariages ne duraient pas plus d'une semaine.
C'est en train d'advenir avec cette société de transparence totale. Dans une coque de noix, Ian McEwan, je voudrais qu'on termine là-dessus, tandis qu'il ne percevait le monde que par bris bribes de conversation depuis le ventre de sa mère, votre personnage de fœtus en venait à cette réflexion. Les mots, je commence à en prendre conscience, peuvent faire advenir les choses. Croyez-vous encore, Ian McEwan, à ce pouvoir des mots, notamment dans la fiction? Est-ce que vous pensez que le monde a encore besoin de fiction? Dans une époque où même la littérature, vous avez certainement lu le journal de Knausgård aussi, qui a fait un énorme tabac, l'un des phénomènes les plus importants de la littérature, c'est le besoin aussi d'adosser tout texte à la réalité. Est-ce que vous, vous croyez encore à ce pouvoir de la fiction?
Absolutely.
Oui, absolument.
I now enter my 50th year of devotion.
C'est maintenant ma 50e année, je commence ma 50e année de dévouement à cette cause.
It completely absorbs my every waking moment.
Et c'est vraiment tout mon existence en fait qui est absorbée là-dedans.
I'm just about to reread Jean-Paul Sartre.
Je m'apprête à relire Jean-Paul Sartre.
Autobiography.
Son autobiographie. Les mots.
I think it's a brilliant biography. Mm. I put it up there with Nabokov.
L'autobiographie est tout à fait brillante.
The two great
pour moi, avec celle de Nabokov, qui sont les deux grandes autobiographies littéraires.
And that power of words, which is an open system.
Ce pouvoir des mots.
Which is why,
qui est un système ouvert.
Adam has such a big journey to travel.
C'est pour ça qu'Adam a tellement de chemin à parcourir.
Playing chess is not a good model of intelligence.
Jouer aux échecs, c'est pas un bon modèle d'intelligence.
Using language
is the ultimate test. Utiliser les mots, ça, c'est le test ultime.
And it's our only method really
of notre seule méthode de communication les uns avec les autres, de nous communiquer une réalité que nous partageons. Ce qui est extraordinaire, quand on revient aux fondamentaux, c'est faire passer un tout petit peu d'air dans votre gorge et par ce moyen transférer votre réalité mentale dans la tête de quelqu'un d'autre. Et l'équivalent sur la page, ces petits gribouillis au bout d'un stylo, c'est aussi une méthode de transfert des âmes. Donc oublier la télépathie, c'est très kitsch et finalement ça existe déjà.
Mais la fiction aussi, vous parliez des mots.
La fiction en tant que telle
for me the most central project
reste because pour moi this is how we le dream projet ourselves central, parce que c'est comme ça que nous nous imaginons et que nous nous amenons à exister, que nous faisons exister par l'imagination.
Where we can either taste where we are at this minute,
on peut sentir
in a massive
où on en est,
and you helpfully evoke
au milieu d'une masse d'échanges, vous avez abordé cette notion de conversation. Dès que cette conversation s'interrompt,
the human project is lost.
Le projet humain est perdu et condamné.
Merci beaucoup, Ian McEwan. Et merci de nous avoir écrit Une machine comme moi, donc votre nouveau roman, traduit de l'anglais par France Camus Pichon. C'est publié chez Gallimard. Merci à Marguerite Capel d'avoir été votre interprète. On va écouter votre dernier choix musical que je cite, The Sensational Alex Harvey Band. Ça s'appelle Framed. Pourquoi ce dernier choix musical?
Well, here's something completely different from Mozart.
Eh bien, c'est complètement différent de Mozart.
This is a Glasgow, tough Glasgow band.
C'est un groupe de Glasgow des années 70. 70, des types qui buvaient, qui se droguaient jusqu'à plus soif. Ils étaient partout dans les rues et on les adorait. Ils venaient de la rue, on les adorait.
Merci Ian McEwan. C'était le temps des écrivains avec Anne-Catherine Lochard et la complicité de Tsolak Paloyan, Jean-Christophe Francis à la réalisation, Stéphane Poitevin à la technique et donc Marguerite Capel comme interprète. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter et podcaster à l'infini sur franceculture.fr cette émission en compagnie de Ian McEwan.
I'm walking down the street minding my own affair when two policemen grab me and I'm unaware. They said, "Is your name Alexander?" And I said, "Why, sure." They said, "You're the cat that we've been looking for." We'll be right back.
little room where the bright light shined. There was 10 poor souls like me standing in that line. I knew I was the victim of somebody's evil plan. When a stool pigeon looked at me and said, "That's your man, but I was a friend, friend, I was a friend, friend, I was a friend, I was a friend, I never did nothing, but I was a friend, 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 oh yeah, oh started prosecuting me. That man wanted to find out what was my pedigree. He said, "Where was you on the 3rd of June 1963? Then them cats with the rubber hoses started giving me